Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out. Aujourd'hui, un épisode avec quelqu'un avec qui j'ai presque l'impression d'avoir grandi. Parce que moi, j'ai grandi avec ton festival, Stéphane. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, ça me fait plaisir. Ça me rend vieux tout d'un coup.
Moi aussi, mais on va le dire à personne. Tu peux nous donner le nom du festival que tu as créé et que tu continues à porter encore aujourd'hui ?
Alors, le festival s'appelle Les Femmes S'en Mêlent, voilà, qui a été créé en 1997.
Voilà, c'est un festival qui en est à sa 23e édition, je crois.
Ouais, alors le storytelling nous fait dire que cette année, ça sera le 25e anniversaire.
Ah, voilà, bah oui, forcément. Et du coup, c'est toujours des histoires d'éditions, d'années.
Oui, puis il y a eu des éditions manquées. Je pourrais te raconter ça.
Bah, on va en parler de ces éditions manquées, bien entendu, parce que c'est une sacrée aventure quand même que Les Femmes S'en Mêlent. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles je t'ai proposé de venir à ce micro de Sold Out, mais la raison principale, c'est qu'on peut vraiment dire que la personne qui est à ce micro, c'est un visionnaire quand même, parce que toi, tu ne vas pas le dire, et moi, je peux le dire. Tu as quand même eu, avant tout le monde, la vision qu'il fallait incarner par un festival le manque de présence des femmes sur scène, en fait.
Ouais, c'est ça. En réalité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'était même avant un constat, enfin, le constat, on l'a vite fait, hein, tu vois. Qu'il n'y avait pas assez de femmes sur les scènes et surtout voilà. Qu'il n'y avait pas assez de diversité surtout.
Exactement.
C'était ça, parce que des femmes pouvaient y en avoir, mais on voyait toujours les mêmes. Donc nous, c'était quelle réponse on pouvait donner ? Justement, on allait chercher d'autres artistes.
Et voilà, bien avant les débats sur la parité, bien avant les débats sur l'égalité homme-femme, bien avant les More Women on Stage et tous ces mouvements super qu'il y a aujourd'hui, y avait Les Femmes S'en Mêlent qui existent depuis très longtemps et qui portaient déjà ces questions-là.
Exactement. Alors, c'est vrai qu'on a commencé, je peux te raconter, on a commencé au même moment qu'un autre festival aux États-Unis qu'on ne connaissait pas, qui s'appelait le Lilith's Fair, en 97 aussi. Et c'est pareil. Donc, il devait y avoir quelque chose quand même dans l'air à ce moment-là.
Bah, on va parler de tout ça, okay. Stéphane, si tu veux bien, dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant.
Est-ce que tout est prêt ?
Oui, monsieur le directeur.
Bon, alors je vais faire commencer.
On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de choses vécues par des professionnels du spectacle vivant.
Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier.
On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus.
On parle d'humain, non ?
Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein.
Sold Out.
Sold Out.
Le podcast de Delight.
Le podcast de Delight.
Bonjour, moi je suis Stéphane Amiel, donc je suis le... Je ne sais pas vraiment comment me présenter, parce qu'à la dernière fois, on me dit directeur des Femmes S'en Mêlent, mais je ne dirige rien du tout. En vérité, c'est les Femmes S'en Mêlent qui me dirigent. Donc, je suis plutôt le programmateur et l'accompagnateur, le premier spectateur des Femmes S'en Mêlent.
Premier billet vendu.
Eh bien, c'est un 8 mars 1997, donc la journée internationale de la femme, au Divan du Monde avec la Grande Sophie.
Pour la première édition du festival.
Exactement.
Et tout dernier billet vendu.
Et c'est au Café de la Danse, c'était en novembre dernier, début décembre, avec RVG, un groupe qui venait d'Australie, un de mes coups de cœur de ces dernières années. Et voilà, c'était le 2 décembre 2023.
Sold Out saison 5, épisode 18, avec Stéphane Amiel, le boss, le programmateur, le fondateur, le visionnaire, qui dirige le festival Les Femmes S'en Mêlent, enregistré dans les bureaux de Delight en février 2024. Stéphane, moi j'ai l'impression, vu de loin, que ce festival que tu portes depuis donc presque 25 ans, c'est une aventure, c'est presque un sacerdoce en fait, c'est une cause.
Bah, c'est une aventure humaine, hein. C'est mon aventure. En vérité, je suis tombé dedans en le faisant. Et après, j'ai fait tout ce parcours-là qui était très, très, très intéressant, très généreux, beaucoup d'embûches, très chaotique aussi.
Ouais. Hein.
C'est-à-dire qu'on voit maintenant, au bout de toutes ces années-là, la marque Les Femmes S'en Mêlent, qui est un peu historique, mais bon, si tout le monde connaissait les dessous des Femmes S'en Mêlent, voilà, il y a un peu plein d'histoires à raconter. Donc ouais, c'est devenu un peu l'histoire de ma vie. Ouais, je l'ai porté à bout de bras toutes ces années. Ouais.
Et justement, on va parler de deux choses. On va parler de ton parcours, du parcours qui t'amène aux Femmes S'en Mêlent, et de toute cette histoire, le parcours du festival aussi, avec les bonnes années, les bons millésimes, les moins bons, les embûches et les souvenirs incroyables. Donc, on va commencer par toi. Bon, au début, tu as commencé par des études assez classiques, au fond. Hein. On est à la fin des années 80, bac B, un DUG, une licence de ciné, une formation à l'INA. Enfin, voilà, tu te destinais à être technicien audiovisuel, un truc comme ça ?
Ouais, j'ai même tenté la FEMIS.
Ah oui.
Je suis allé la dernière étape qui était le grand oral. Donc ça, la FEMIS, c'est un concours qui commence qui commence au mois de juin et qui finit fin septembre.
Oula.
Donc c'est
école de cinéma. Hein.
École de cinéma, ouais. L'IDEC, l'ancienne IDEC et tout ça, donc la plus prestigieuse. Je voulais faire du montage, donc je m'étais J'avais postulé, je pensais être pris. Je suis arrivé au dernier oral et puis j'ai pas été pris. Et je me suis détourné du cinéma parce que je me suis rendu compte qu'en plus, dans cette école de cinéma, il y avait pas des malversations, mais c'est-à-dire qu'il y avait parce que normalement, à chaque étape, tu pouvais être soit éliminé et ne pas passer l'étape suivante. Et il y avait beaucoup de personnes, apparemment, qui, éliminées à la première étape, est à la deuxième, et à la troisième, et intégrer la FEMIS.
Donc,
c'était très bizarre. Bon, j'ai même été en procès contre la FEMIS.
Ah, t'étais en procès?
Ouais, j'ai fait même un procès. On était plusieurs parce qu'on était dégoûtés. Ouais. Parce que c'est tellement long, c'est tellement engageant comme concours. Et se rendre compte qu'au final, on retrouvait des fils d'eux qui avaient des postes, enfin, qui rentraient dans cette école. Bon, voilà. Donc, et ça m'a un peu. Voilà. Donc, moi, c'est ma passion, c'était le cinéma, ouais.
Et finalement, est-ce que ça donne une première clé de lecture de ton parcours? Comme tu n'as pas eu la FEMIS et comme cette idée de devenir monteur pour des grands films n'a pas marché, tu te dis « Ok, mon job va devenir un job plus alimentaire qu'autre chose. Je vais être au fond technicien en régie ou opérateur en régie dans d'une chaîne de télé. Et puis le piquant de ma vie, je vais le mettre ailleurs. »
Ouais, j'ai postulé. De toute façon, tout en faisant ces études-là, il fallait que je travaille. Donc je travaillais à mi-temps à Canal+. Je travaillais au centre d'accueil téléphonique, donc je répondais aux abonnés et où je vendais des abonnements. Donc j'ai fait ça pendant deux ans.
Toi, tu vendais des abonnements.
Ouais.
J'aurais bien aimé voir ça.
Enfin, je vendais pas, mais tous les distributeurs m'appelaient de toutes les régions de France, nous appelaient et nous faisaient la liste de tout ce qu'ils avaient vendu la journée. Et nous, on les rentrait informatiquement et voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait Canal Satellite aussi, où je répondais à des problèmes techniques que des fois je ne comprenais pas moi-même. Mais bon,
tu leur disais de redémarrer le décodeur.
Ouais, exactement. Je disais déjà, est-ce que c'est bien branché? Oui, non. Bon, ben voilà. Donc voilà, je faisais ça. Donc j'avais déjà un pied comme ça dans un milieu technique que je ne connaissais pas trop, c'était pas trop mon truc, mais c'était vraiment pour gagner ma vie tout en faisant des études de cinéma.
Après la FEMIS, après l'échec de la FEMIS, si j'ose dire, t'as continué à faire ça
hein. Ouais, j'ai continué à faire ça et tout d'un coup il y a eu un concours interne à Canal, les nouvelles chaînes vont se monter, les chaînes arc-en-ciel, donc c'était, il y avait Canal+, et après ils voulaient monter d'autres chaînes autour.
Ah oui,
et j'ai
bleu,
postulé,
vert,
ouais, bleu, vert, jaune.
C'était les signaux un peu décalés.
Exactement, les bleu, vert, jaune, exactement. Ouais, c'est devenu après. J'ai postulé, il y a eu un concours à l'INA. Là, j'ai commencé à dire, ouais, mais en vérité, j'ai peut-être pas le bagage technique pour faire. Donc, j'ai révisé vite fait de l'électronique, de l'électricité, des choses que j'avais fait. Et je suis passé. Et j'étais très surpris quand on m'a dit, vous êtes pris. On était une dizaine. Et donc là, j'ai eu une formation à l'INA. Et tout d'un coup, ma vie a bifurqué là-dessus. Je m'y attendais pas du tout. C'était pas du tout un plan de carrière. Et je pensais pas être pris. Et j'ai été pris.
Et l'INA, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel.
Ouais.
Donc en gros, tu te retrouves dans une régie à Canal+. Alors, faut dire qu'une régie finale, faut peut-être, c'était déjà en régie finale à l'époque?
Ouais, c'était tout de suite de régie finale. Ouais.
Régie finale, c'est quoi? Tu peux raconter?
C'est une régie de diffusion et de transmission. C'est-à-dire que c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est-à-dire que, qui est alimenté par plein de programmes. À l'époque, c'était des cassettes vidéo, des bêtas, des grosses bêtas, dans des grosses armoires avec plein de magnétoscopes. Et nous, c'était d'assurer une continuité de chaîne, c'est-à-dire une continuité du signal, une continuité qui est sûre qu'il y a du son, de l'image, que ça parte à l'heure, donc avec une playlist, comme une playlist de musique qu'on a maintenant sur nos ordi ou une playlist pour la radio. On la suit et puis on doit justement faire partir le bon programme au bon moment.
Avec la spécificité qu'à l'époque, il y avait nulle part ailleurs, il y avait les matchs de foot. Donc parfois, ça déborde, parfois, il faut gérer.
Ouais,
parfois, il faut parler avec les studios et les régies des studios. Et...
Ouais, c'est ça. On est un peu au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de réalisation, mais on est au milieu de tous ceux qui réalisent, de toutes les régies de réalisation. Donc voilà, moi, je suis là-dedans. Donc, une bonne bande, ça déconne bien. En plus, il y a l'époque, Edouard Baird, tout ça, il y a le Wiseman, qu'est-ce qu'on rigolait.
Ah ouais,
enfin, ouais, même dans les.
Tu les voyais?
On les voyait, on faisait des booms, les booms du jeudi. Dans les, dans chaque
ça, les booms du jeudi.
Les booms du jeudi, on investissait n'importe quel bureau et on mettait de la musique et on dansait et puis on picolait et puis on mangeait et puis voilà, on faisait des farandoles dans les couloirs de Canal. C'était assez bizarre, quoi.
Ça devait être rigolo, ouais. Quoi.
Et on allait voir, bien sûr, tous les concerts qu'il y avait en live à nulle part ailleurs. Donc, on prenait le...
Il faut le rappeler, ça. C'est la grande période de Stéphane Saunier, le programmateur génial de nulle part ailleurs.
Exactement, voilà, c'est ça. Donc, des fois, on se retrouvait dans l'ascenseur avec Oasis, Sonic Youth, Nirvana, David Bowie. On a vu Bjork, les Portishead.
Radiohead.
Tout le monde, Radiohead, dont des concerts même privés qu'il y avait.
Qu'on peut encore retrouver sur YouTube, je crois. Et c'est vrai que c'était l'époque à nulle part ailleurs où toute la musique, tout ce qui se faisait de mieux au monde venait jouer là et tout le monde s'était passé le mot.
Ouais, c'était une très grande époque. Ouais, ça, c'est les années 90. C'était, ouais. Moi, j'étais là-dedans.
Mais en fait, t'étais là-dedans, mais t'étais un peu spectateur, quoi, parce que finalement, tu
Ah oui, alors je quittais mon poste. Alors, voilà. il fallait pas, et bon, ben, je peux le dire maintenant parce que j'y suis plus à Canal, mais en réalité, moi, j'étais un poste très posté, je devais pas aller sur les studios et aller voir ça, et mon chef de service m'appelait le vagabond.
Ah ouais?
J'étais appelé le vagabond à Canal+, parce que j'étais jamais à mon poste, et c'est j'allais génial. Voir les groupes.
T'étais bon. Un électron libre, hein, déjà.
Ouais.
Ouais. Et donc, bah, t'essayes de trouver du fun là-dedans, mais c'est clairement, à un moment, tu t'es dit, de toute façon, c'est pas exactement ce que je veux faire, et je vais inventer du piquant ailleurs, et c'est là qu'en parallèle, tu fais les 25, tu commences à inventer ou à réfléchir ouais. en tout cas aux femmes sans mail.
Bah ça se crée à Canal, ça se crée à Canal. Bah ça se crée autour d'une table à Canal en discutant à la cafette avec quelqu'un qui en parlant de musique avec un collègue qui me dit ah mais moi j'ai une association qui s'appelle Bandido, ça te dit pas, t'aimes la musique aussi, on peut faire des choses ensemble. Moi j'avais jamais organisé un concert ou quoi que ce soit, j'adorais la musique, j'étais un fan de New Wave, les Cure, je les suivais, je les connaissais, j'allais voir des groupes comme ça, enfin bon,
comme
j'étais
ça, je
très
les connaissais,
fan.
Tu...
bah je leur parlais, ouais, j'allais ah ouais les voir à Nantes, n'importe où, à Nîmes, à Orange, je connaissais, enfin voilà, moi, je les connaissais. J'ai plein de photos avec eux, de machin.
Ouais, bien sûr.
Tout dédicacé. Bon, voilà, c'était une grande époque curiste. J'étais un grand curiste, quoi. Et en discutant, il me dit, voilà, est-ce que tu veux pas ? Et est-ce qu'on pourrait ensemble réfléchir à un événement ? Alors, c'était... ouais, on était en 95. Et 95, on se dit, ah bah, ce qu'on aimerait faire, c'est peut-être un festival européen. On parlait beaucoup de l'Europe. On dit, ça serait cool de faire ouais. un festival avec plein de groupes européens différents. Voilà. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux une attirance et un attrait pour les voix de femmes et pour les artistes femmes. Alors, je ne sais pas comment c'est venu, je ne me rappelle plus le moment, mais ça nous, c'était quelque chose qui nous liait tous les deux. Et on s'est dit, mais... c'est vraiment venu comme ça. On dit, ça va être bientôt le 8 mars, la Journée internationale de la femme. Est-ce qu'on n'organiserait pas justement des concerts avec des artistes femmes ? Et on a trouvé ça visionnaire. On a dit, mais ouais, ça ne se fait pas, ça serait trop cool.
Mais alors que vous n'aviez jamais organisé de concert ?
Moi, non. Lui, il était déjà dans une asso. Il faisait déjà des concerts, mais des petits trucs dans les bars. Enfin, voilà, c'est ça. Une asso qui était plutôt bien structurée. Il y avait deux autres personnes dont je ne me rappelle plus le nom, que je n'ai pas beaucoup vues. Mais c'est une toute petite asso, voilà, qui s'appelait Bandido à l'époque.
Sold out. Le podcast de Delight.
Mais en fait, c'est génial parce que dans ses débuts, il y a déjà toute l'inconscience du projet, moi, je trouve. Il y a déjà l'idée du geste parfait et l'idée de se dire on s'en fout, on le fait, on réfléchit pas trop aux conséquences.
Ouais, mais c'est ça, les garçons. Hein. Tu sais, quand on parle du syndrome de l'imposteur, tu sais que les femmes parlent beaucoup de ça.
Absolument.
C'est-à-dire que souvent, quand on entend les femmes parler, elles disent mais vous, les garçons, vous vous autorisez des choses que nous, on ne s'autorise pas. Et c'est vrai que moi, je me suis même pas pensé. Déjà, on était des deux garçons. Déjà, tu vois, ça s'appelle les femmes s'en mêlent. Ouais. Donc, à chaque fois, on se disait, mais de quoi je me mêle, quoi ? Parce qu'en tant que garçon, peut-être que c'était peut-être pas quelque chose où on avait notre mot à dire. Enfin, tu vois, notre situation était un peu compliquée, je pourrais te raconter. Mais voilà, il y a toujours... on est quand même deux garçons hétérosexuels, en plus. Enfin, tu vois,
on l'a beaucoup reproché, ça, justement, de pas avoir de femmes dans la sauce, de pas avoir au début, de programmatrice.
Il y avait deux filles dans la sauce, mais dans l'association, mais qui ont vite parti parce qu'elles ont vite vu qu'il n'y avait pas d'argent et qu'il n'y avait pas d'avenir sur ce projet-là. Donc, est-ce qu'on me l'a reproché ? Non.
Mais les femmes en mail, c'est quoi ? C'est devenu une association après ? Le premier festival.
Alors, premier festival, c'est en association avec l'association Bandido. Oh,
voilà, c'est ça.
8 mars 1997. Et Bandido, ça a duré jusqu'à 2004. On fait trois éditions, 97, 98, 99. 99, on se plante au Divan du Monde sur une soirée géniale, mais avec 80 personnes dans une salle de 500. Il y avait une Israélienne, Meira Asher. Il y avait une Islandaise, Magastina, qui s'en rappelle. Et une Américaine, Esther Balint. Et il n'y avait personne, quoi.
Il faut le dire, parce qu'on a tellement de thèmes à évoquer que j'oublie de te demander l'essentiel. C'est quoi le positionnement artistique du festival ? Qu'est-ce qu'on propose ? C'est quoi les Femmes sans mêle ?
Ah bah oui, bah, les Femmes sans mêle, ça a été, tout de suite, c'était une célébration de la scène féminine en musique. Voilà, c'était ça. Donc c'était comment célébrer. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris tout de suite un positionnement, j'ai envie de dire, militant et féministe. Parce que déjà, personnellement, je ne savais pas qu'un garçon pouvait être féministe à l'époque. Je l'ai appris après, tu vois, ça ne se disait pas. Je pensais que c'était réservé aux femmes, justement. Enfin, tu vois, que c'était un combat de femmes. Et nous, on s'est dit, bah non, on va pas... Et en plus, on nous regardait d'un drôle d'œil. Donc, de toute façon, il fallait avancer masqué, de toute façon. Tu ne pouvais pas avancer, dire on est un festival féministe, sinon là, tout le monde te tombait dessus.
Mais donc, au début, on met moins ça en avant. Mais qu'est-ce qui se passe sur scène ?
Ah ben c'est des artistes femmes qu'on voit peu.
Que
des artistes femmes, exactement.
Émergentes.
Bah, la plupart émergentes, parce que déjà, financièrement, on n'avait pas... et puis surtout...
On n'avait pas les moyens de payer des artistes confirmés.
Et qu'on ne voyait pas. à part la première édition, mais dans les 15 premières éditions, il n'y a presque pas de françaises. Parce qu'on les voyait beaucoup, et celles qui étaient là étaient déjà mises en avant, et nous, c'était l'idée, c'était justement d'amener justement d'autres modèles et d'autres artistes. Donc, voilà.
Mais quand je parle d'inconscience, ce n'est pas du tout péjoratif. Quand je disais inconscience tout à l'heure, c'est quand même que se lancer dans un festival qui a lieu dans plusieurs salles à Paris, avec une affiche où on ne connaît pas un seul nom, en fait. On ne connaît pas un seul nom, puisque c'est de l'émergence. C'est ça.
La grande Sophie, quand même. Ouais. La première, ça a plutôt bien marché.
La première année,
la grande Sophie, il y avait Cornu, il y avait Diterzy. Non, il y avait quand même quelques noms.
Mais c'était connu en 97.
Ouais, elle commençait à être connue. Ouais.
Okay.
Elle commençait à être connue. Donc on les a pris au bon moment. C'était plutôt intéressant. Mais en vérité, quand tu dis inconscience, ouais, moi je dis surtout en naïveté, quoi.
Ouais, c'était candeur presque.
Ouais, c'était ça. Ouais, c'était vraiment. Ouais, c'était surtout ne venant pas là-dedans, moi ne connaissant rien au business, quoi, tu vois. Enfin, j'ai toujours été un amateur, quoi, tu vois, ou un artisan là-dedans.
Mais un passionné aussi.
Et bah oui, il faut l'être, hein, pour le continuer, le festival. Ouais. Ouais.
Justement, on va parler ensuite des moments plus chaotiques. Mais alors, justement, 99, alors, énorme trou de trésorerie.
Ah bah ouais, là, tout le monde s'en va. Alors, tout le monde, ouais, voilà, c'est-à-dire, 99, je me retrouve tout seul après le dernier concert des Femmes Sans Mêle. On avait chacun mis de l'argent personnel, l'argent de Canal. On avait mis 10 000 francs de l'époque, ce qui faisait à peu près 1 500 €. C'est rien, hein, tu vois. Mais bon, et tout le monde, voilà. Au bout de trois années, on cherchait des financements, on cherchait d'être aidé par l'Amérique, on n'avait pas de retour. Mon acolyte, qui était Jean-Luc, il m'a dit « Moi, je laisse tomber, ça ne marchera pas. Ou alors, il faut trouver une mairie en province, quelque part en région. Mais moi, je laisse tomber. » Et tout le monde a laissé tomber. Tu sais, c'est les trucs d'assaut. Et je me suis retrouvé tout seul. Donc, 2000, crash de l'an 2000, quoi. Pas de festival.
C'est pour ça qu'il y a un décalage entre le nombre des années et le nombre d'éditions.
Ouais, tout à fait. Et je me suis fait ça comme un challenge personnel. Je me suis dit « Mais est-ce que je pourrais le faire tout seul ?» Et je l'ai fait tout seul et j'ai fait 2001 et la fameuse édition 2001 qui m'a monté, qui a été un énorme succès.
Ah ouais?
Trois soirs. Bah, on a eu Kim Gordon de Sonic Youth qui est venu avec Brigitte Fontaine, avec Ikue Mori, même le batteur de Sonic Youth est venu, Steve Shelley qui joue avec une Norvégienne qui s'appelait Christina Rosenvinge. Il y avait Elysian Fields, Catherine Williams, Drugstore. Et je sais pas comment j'ai réussi grâce avec le Café de la Danse m'a accueilli. En 2001, et c'est comme ça que voilà, on a pu. Enfin, j'ai pu parce que j'étais tout seul dans l'assaut de toute façon. Jusqu'en 2004, j'étais tout seul. Ouais.
Mais comment tu as financé ça? Parce que il y avait un gros déficit en 99. Enfin, c'est comment tu fais pour remonter à cheval?
Bah, je me paye pas.
Ouais, c'est ça.
Bah déjà, voilà. Déjà, ouais, c'est, j'étais bénévole pendant toutes ces années-là jusqu'à.
Tu continues à travailler à Canal à côté?
Exactement, je travaillais à côté, donc tu vois, j'avais pas besoin, donc je mettais vraiment toute mon énergie là-dedans. Bah j'étais tout seul, quoi.
La billetterie et quelques subventions.
Ouais, quelques subventions. Enfin, non, pas zéro subvention. Hein.
Zéro subvention.
Oh, bah ouais. À l'époque, je trouvais plus de marques. J'ai trouvé des marques qui ont pu me soutenir, tu vois. Il y avait Cimarron, Roxy, des choses. Beaucoup de marques se positionnaient quand même sur l'image des femmes. Moi maintenant, bizarrement, mais beaucoup à l'époque. Donc, j'avais plutôt des partenaires privés. Aucune subvention, non. De toute façon, j'étais nul. T'imagines, j'étais tout seul. Je savais même pas comment faire un dossier de subvention et ça me faisait chier. J'avais pas le temps. Je travaillais à côté.
Bah, bien sûr, t'allais à l'essentiel, la programmation.
La programmation, ouais.
Mais moi, c'est ça qui me fascine un peu dans ton histoire. C'est que d'un côté, il faut quand même se mettre ça en tête. Enfin, imaginez-vous, vous avez un vrai boulot enfin, pour lequel vous êtes payé. Vous allez à Canal+, tous les jours, en tout cas, parfois la nuit. Enfin, voilà. Enfin, même si ce boulot laisse du temps. Et à côté de ça, tu fais un métier à la fois de programmation, tu réserves des dates, comment tu sais ce qu'il faut programmer? Comment tu as le pif pour programmer des trucs? Et comment tu sais qui contacter?
Alors, j'ai l'impression que c'était plus facile à l'époque. J'ai l'impression où je me posais moins de questions et je les découvrais. Bah déjà, il y avait moins d'offres, moins de médias, moins de choses. Donc, de toute façon, je savais aller à l'essentiel. Hein. Je suivais pas mal les Arocs, ce qu'ils mettaient en avant aussi. J'allais voir en Angleterre. Bah, j'écoutais beaucoup de choses, peut-être plus que maintenant presque. J'étais vraiment passionné. Et en fait, chaque découverte m'amenait vers une autre découverte. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai découvert plein d'artistes qui m'ont fait découvrir d'autres artistes. Ça a été très familial comme histoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont été cooptés par d'autres artistes. C'est-à-dire que c'est devenu un peu une famille, les Femmes Sans Mêle. Et puis, il y a eu surtout l'explosion de MySpace. Je ne sais pas si tu t'en rappelles.
Bien
et
sûr.
Ça, MySpace, ça a été un vivier, justement. Tu sortais de tous les labels, de tout. Dans lesquels j'avais presque pas de contact, moi, parce que j'avais pas le temps. Et en fait, les artistes, je les trouvais sur MySpace la plupart du temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont venus, qui n'existe peut-être plus maintenant, mais qui ont fait beaucoup de choses. Mais il y a eu ce moment-là, et ça a été un moment de liberté, et surtout, je pense, pour les artistes femmes, ça a été un multiplicateur de talent, parce que justement, tu pouvais mettre tes chansons sans le filtre de quelqu'un, sans le filtre d'un label, sans l'autorisation de personne, sans le regard d'un homme, sans le regard ça. C'était des femmes artistes qui mettaient leurs chansons sur MySpace et on pouvait les écouter. Et là, c'était le bonheur.
Alors, il y a certaines de ces artistes qui n'existent plus aujourd'hui, malheureusement. Mais quand on regarde la liste des programmations et toutes les éditions des Femmes Sans Mail, on voit des noms comme Christian The Queens, Cat Power, Jeanne Hadet, Fest, Emily Simon, Clara Luciani. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est des noms qui sont devenus célèbres après, c'est ça?
Ouais, après.
Après coup, à chaque fois. C'est-à-dire que les Femmes Sans Mail, c'est célèbre quand on regarde dans le rétroviseur.
Ouais, bah alors pas toutes, mais celle-là, oui, c'est vrai. Ouais, bah Christine, ouais, bah Christine, de toute façon, c'est une belle histoire parce qu'elle est venue dans notre bureau déposer sa maquette, sa deuxième, son deuxième EP. Et c'était l'époque d'Impérial. Et tout de suite, dès que j'ai écouté, moi, c'était une évidence. Et voilà. Donc rapidement, enfin, j'étais de toute façon déjà très réactif. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait voir les choses, être très réactif, c'est-à-dire que je ne me posais pas trop de questions. C'est pour ça que j'ai pu faire aussi beaucoup de bêtises de programmation. Ce n'est pas des bêtises, mais des choix un peu hasardeux. Mais voilà, c'est toujours fait par le cœur. Bon, plein de groupes, des soirées, je me dis, ah, ça va cartonner. Et ça ne plaisait qu'à moi, quoi. J'ai l'impression que tout le monde connaissait et que tout d'un coup, j'ai souvenir d'édition des Femmes Sans Mail. Ça tenait que sur un nom pour moi, mais le nom que personne ne connaissait. Et c'était pour avoir cet artiste-là que j'ai créé tout autour presque. Une artiste, El Piero del Mar, je ne sais pas, Frida Huvonen, Catherine Williams, des artistes, voilà, pas les plus connus, quoi.
Non, mais ça, je comprends très bien. C'est vraiment un truc de passionné, ça. C'est là qu'on revoit le mec qui suivait Cure en tournée partout.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que tu étais monomaniaque à un moment sur une artiste. Tu disais, c'est merveilleux, ça. Il fallait que tu inventes l'histoire autour.
Ah ouais, il fallait qu'elle soit au festival, parce que sinon, ça n'avait pas de sens, le festival, j'avais l'impression. C'est très étonnant des fois. C'est des lubies comme ça, tu vois. C'est des. Maintenant, je me calme. Hein. J'étais comme ça, vraiment très exalté, jeune. Hein. Je suis beaucoup moins maintenant parce que je me calme et j'ai eu pas mal de souffrances aussi. Donc, j'essaye aussi de me préserver de ça.
Souffrance de quel type?
De refus.
Ah oui. D'artistes que tu voulais avoir.
Maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Donc, maintenant, j'ai appris à faire la part des choses et je dis, et c'est pas grave, et je trouverai quelqu'un d'autre. Et...
Sold Out.
Sold Out, le podcast de Delight.
Bon, alors, si on se projette un peu maintenant sur l'avenir du festival, il y a un truc qui a changé, c'est que depuis quelques temps, tu ne bosses plus à Canal, tu n'as plus cette double vie.
Non,
donc,
voilà.
Maintenant, c'est ton vrai métier. C'est les Femmes Sans Mail.
Ouais, voilà. Maintenant, j'ai du temps. On est deux. J'ai pu enfin me consacrer à la partie, j'ai envie de dire, un peu plus politique. Ce que j'avais pas le temps du tout, c'est-à-dire que j'avais pas le temps de faire des rendez-vous avec des ministères, le temps d'aller voir Conny à la SACEM, pas le temps d'aller voir la DRAC, pas le temps d'aller voir la région, pas le temps d'aller voir le CNM. Donc, je me suis dit, bon, là, je vais m'y mettre.
Mais ça t'amuse, ça?
Et voilà. Non, pas tellement. Non, mais c'est vrai, ouais, ça c'est la part. Mais en même temps, je dois en passer par là.
Ouais.
C'est pas question de ça m'amuse. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus vraiment le choix non plus. J'ai plus un parachute derrière moi. Avant, j'avais pas besoin de me rémunérer pour ça. Donc, je pouvais partir avec zéro, comme plein d'éditions des Femmes Sans Mail, avec rien, avec aucune perspective d'argent. Je le faisais. Je commençais à travailler, je faisais plein de choses et tout ça. Là, maintenant, c'est beaucoup plus tranquille, c'est-à-dire financièrement, mais plus compliqué artistiquement.
Parce que les choses sont plus normées, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à choper des artistes.
Ouais, exactement. Bah, y a une concurrence depuis, de toute façon, la crise du disque et tout ça, et la part du live dans l'économie d'une artiste et d'un artiste, c'est devenu le nerf de la guerre.
Mais ce qui est quand même un petit peu peut-être ingrat, c'est que moi je trouve que quand je disais tout à l'heure que j'ai le sentiment d'avoir grandi avec ce festival, c'est que voilà, moi 97, c'est le moment aussi où je disais Les Inrocks, où je disais beaucoup Libé. Faut quand même imaginer ce que c'était les Femmes Sans Mail à l'époque. C'était un événement. Ça faisait, dans Libé, on en parlait comme d'un exemple presque de qualité mondiale. Les Inrocks en parlaient à chaque fois. C'est une institution, c'est une marque énorme qui a quand même grandi depuis 25 ans, quoi.
Et c'est clair, on avait des fois des 3-4 pages dans Libé, des doubles pages dans Les Inrocks, sur plein de choses qui mettaient en avant les artistes avec des interviews et tout ça. Et c'était des grands moments. Ça, c'est les années 2000, quoi.
Ouais, mais tu fais ça il y a 25 ans. Et c'est un peu dur aujourd'hui que les artistes s'en souviennent pas, au fond, parce que quand même, mettre en avant les femmes depuis 25 ans, ça mériterait qu'on vienne presque gratuitement jouer sur cette scène, en fait.
Ouais, c'est vrai, mais souvent, l'entourage n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pression économique.
Bien sûr. Et on peut le comprendre aussi. Il faut bien que chacun vive.
Ouais, on peut le comprendre aussi. Donc... bon, voilà, il y a des artistes, j'essaye depuis des années, pourtant qu'on a déjà joué, chaque fois c'est non, ou c'est pas le bon moment, ou ben non, on va faire un autre événement.
Il y a une artiste particulièrement que tu as en tête qui n'est pas encore montée sur la scène des femmes sans mêle.
Alors il y en a une qui est déjà montée, mais qui a fait qu'un DJ set, mais j'aimerais qu'elle joue vraiment, c'est Fishback par exemple. Fishback, j'adore Fishback, elle a déjà fait, je pense, pour les femmes sans mêle, 2 DJ set, mais j'aimerais la voir en artiste, j'aimerais avoir un spectacle ou une carte blanche, donc j'essaye depuis. Ouais, depuis 4-5 ans. Mais je désespère pas. Après, voilà, c'est-à-dire que pour avoir pu continuer toutes ces années-là, il faut être très obstiné. Hein. Et il faut être. C'est une
c'est pour ça que je parlais d'un sacerdoce en entrant.
Ah oui, c'est un sacerdoce. Oui, si je suis rentré en religion quoi, là-dedans.
Mais vraiment.
Ah, vraiment.
Il faut tout le temps se battre.
Ouais, et puis c'est réfléchir, et puis c'est et trouver du sens, et trouver du sens pour soi-même, trouver du sens pour les artistes. Ça me questionne à chaque fois. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais des fois? Ouais, quand je te dis de quoi je me mêle, c'est toujours ça, quoi. De quoi je me mêle? Surtout, l'époque a changé. Je suis un garçon qui vieillit là-dedans. Enfin, tu vois, depuis de 50 ans. Enfin, tu vois, j'ai plus l'impression d'être la bonne personne. Donc, ça me questionne, moi.
C'est pas vraiment une posture? Ouais.
Ah non, 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 non. Bah non, non, non. J'ai envie de dire même, j'ai envie de dire laisser de la place même à d'autres. Enfin, tu vois,
t'as
j'ai
envie
l'impression.
De ça?
Ah oui, oui. Bah là, on travaille en binôme. Mais
par exemple, pour la programmation, femme. Comment tu fais pour sentir les nouveaux trucs? C'est peut-être, enfin. Tu arrives toujours à sentir les artistes du moment?
Des fois, le problème c'est que ça va tellement vite que le temps que je les sente, c'est pas dans les papiers. Et, tu comprends, ça serait cool de jouer aux femmes sans mêle, mais on préfère être en headline. Il y a un gros label derrière aussi qui veut sa date, donc il faut pas qu'il y ait le nom des femmes sans mêle. Enfin, de toute façon, c'est pas très généreux hein, comme métier. Hein. C'est pas un moment. Enfin, tu vois, j'ai pas trouvé ça. Ouais, ça manque de générosité et de simplicité, mais je comprends parce que tout le monde est tellement tendu financièrement. Mais des fois, je regrette un peu parce que moi, je me dis, on peut faire un pas de côté avec les femmes sans mêle et faire son propre concert. Enfin, tu vois.
Ah, t'y arrives plein de fois déjà.
Ouais, j'y arrive, mais je lutte quoi.
Ouais, bien sûr.
C'est une lutte.
C'est une lutte en permanence. Et, ouais. C'est, j'imagine, une lutte qui n'est pas là pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous êtes tout juste à zéro.
Ah, bah non, de toute façon, à gagner de l'argent avec des concerts dans des salles de 500 à 800 places, t'as pas d'économie. Hein.
Au mieux, vous ne perdez pas d'argent.
Ouais, mais souvent, on en perd.
Ah ouais?
Ah bah, sur chaque concert,
mais comment vous faites,
un trabendo pas rempli, bah, on perd de l'argent. Hein. Surtout quand on veut avoir certaines artistes, on les paye plus cher. Si vraiment tu le veux, tu ne vas pas dire, tu vas pas commencer à dire « Ok, on te propose tant d'argent. Si tu, vraiment tu veux, tu payes. » Mais des fois, la billetterie n'est pas au rendez-vous.
Ouais, malheureusement. Mais alors, pourquoi tu continues?
Ouais, je me pose la question parce que des fois ça m'a rendu malheureux aussi. Hein. Ça
ah ouais.
Vraiment pas. Ouais.
Mais
ouais.
C'est bien d'en parler aussi. C'est, ouais, c'est de pas c'est, chez les bisounours.
C'est pas quelque chose. Ouais, c'est pas quelque chose toujours
sentiment
de
d'ingratitude,
de lumineux et tout ça. Et c'est très solitaire aussi. Des fois, j'ai l'impression d'être tout seul. Alors après, ouais, mais de toute façon, moi, je suis pas quelqu'un qui me repose sur mes lauriers. Tu vois, je regarde pas derrière. C'est-à-dire que j'essaye d'avancer et tout ça. Et des fois, c'est un parcours solitaire. Très solitaire.
Je suis venu plusieurs fois sur des dates des femmes sans mêle et à chaque fois que je te vois comme ça, t'as quand même l'air heureux. T'as l'air super heureux.
Ah bah quand on est dans le concert,
dans
on est super
avec
un
sourire.
Mais oui, mais bien sûr. Ouais. Non, mais de toute façon, tous les concerts, je crois que j'ai peut-être loupé un ou deux concerts des femmes sans mêle parce que j'étais malade. Mais sinon, je les ai tous vus. Je suis le premier public. Hein. La chargée de com, elle me dit, mais je crois que t'es un des rares programmateurs que je vois danser au festival. Au groupe qu'il programme ou danser ou écouter ou être là de bout en bout.
Mais au fond, c'est pour ça que tu le fais. Tu te fais ton festival.
Ouais, alors ouais, c'est presque ça.
Non,
ça peut être
est-ce
ça.
Que je me trompe peut-être que je me trompe. Hein.
Non, est-ce que je me fais mon festival? Ouais, je me fais mon film un peu.
Mais c'est génial. Et
j'ai
et
pas
ça fait 25
cinéma.
Ans que les gens te suivent quand même.
Ouais, que ça suit comme ça et qu'en même temps, ça a du sens aussi.
Bah, complètement.
S'il n'avait pas de sens pour les artistes, j'arrêterais.
Alors, du sens pour les artistes et puis du sens pour la société. Hein, encore une fois, c'est cette petite musique, c'est 25 ans qu'on entend. Et tu parlais tout à l'heure d'engagement. Au début, vous ne mettiez pas en avant l'engagement. Et là, vous avez créé un truc qui s'appelle Les Femmes s'engagent aussi.
Ouais, voilà, exactement. Je pense que la période voulait ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas juste se contenter de faire des concerts avec des artistes femmes. Parce qu'il y en a de plus en plus, et puis quel était le sens? Donc on s'est rendu compte que quand même, les femmes sans mêle, c'était un levier incroyable pour accélérer justement de la professionnalisation, de la formation, tout ça. Donc on propose de plus en plus d'ateliers, des rencontres, des masterclass. En vérité, c'est ce qu'on appelle la sororité, c'est-à-dire que c'est plein de femmes entre elles qui se donnent de la force, comme tu vois, les mentorats et tout ça. Donc on en fait partie. Et moi, c'est quelque chose. En fait, les femmes sans mêle, ça m'appartient pas. C'est quelque chose de rencontre. C'est quelque chose qui fédère. C'est pas moi les femmes sans mêle. Les femmes sans mêle, c'est une idée. C'est une idée. Et c'est surtout. Donc c'est pour ça qu'on adore fédérer toutes les jeunes initiatives et qu'on intègre tout le monde. C'est-à-dire que voilà, c'est pas moi qui fais la programmation. Ça vient pas comme ça. C'est un ensemble, quoi. un ensemble de forces motrices comme ça, qui ont envie de faire changer la société et qui trouvent, à travers les femmes sans mêle, un message positif et bienveillant.
Et justement, tu connais peut-être la dernière question habituelle de Sold Out de ce podcast, le conseil qu'on donne à un petit Stéphane Amiel, peut-être à quelqu'un qui a envie de faire un festival ou qui a envie de se lancer dans ce genre de projet, qui est dans une école ou juste qui ne sait pas comment faire. On lui donne le conseil d'y aller, de ne pas y aller, de faire quoi ? Quel conseil tu donnerais en 2024 à quelqu'un comme ça ?
De faire un festival ? J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'envie de faire des choses qui ont du sens, pas forcément justement à grande échelle, mais de trouver du sens ou localement, où on habite. Hein. Déjà, tu vois, moi je suis à Montreuil, je fais de plus en plus de choses à Montreuil, c'est aussi simple que ça. On a envie de chercher autour de soi ce qui fait sens, et déjà d'y aller de façon très, j'aurais dire localement, c'est-à-dire, et simplement.
Mais de faire les trucs, de se lancer, quoi.
Ah ouais, j'ai plein de choses à faire. Bah oui, il y en a plein. J'imagine les collectifs que je rencontre, le nombre de groupes, c'est foisonnant. Non, il se passe plein de choses. Ouais.
Donc faut y aller.
Bah oui, faut y aller. Ouais, faut vivre en tout cas, et c'est vivre.
Allez, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup, Stéphane, et que y ait encore 25 éditions des Femmes sans mêle.
Ah oui.
À bientôt.
À bientôt, merci.